Il est humoriste, triomphe sur scène et publie sur YouTube des parodies incisives dont certaines cumulent des millions de vues en riant de l'époque et de ses dérives. Il y a 15 ans, son tout premier spectacle s'intitulait « Malik Bentalas la raconte », l'histoire d'un garçon qui monte à Paris pour tenter sa chance. Une échappée avec Malik Bentala, c'est Totemic jusqu'à 10h.
J'ai grandi, j'ai fait mes études à Avignon.
Précisément, vous êtes de l'Audin.
De l'Audin, exactement, dans le Gard. J'ai dit, ça a été une de mes premières vannes sur scène, ça m'a aidé. Sans faire exprès, je disais aux gens, je me présentais, je disais que je venais de l'Audin. Puis après, je m'enfonce un peu plus et je dis, bah, c'est à côté de Bagnoles. À côté de Tresque, pas très loin de Bagnoles, quand vous prenez le rond-point de Saint-Marcel de Carréré, vous continuez. C'est vraiment, ça fait partie de ces villes où on connaît le boulanger, on connaît le maire, on connaît. Tout le monde se connaît.
Il y a la scène, plus les vidéos que Malik Bentala fabrique et publie sur sa chaîne YouTube, en réussissant un truc qui devient de plus en plus difficile en 2026, rire de l'époque, de ses dérives médiatiques, de ses postures et de ses engouements absurdes pour des pâtisseries en forme de lampadaire, par exemple. Tout y passe, de CNews au rappeur Jules, avec des enjeux différents à chaque fois. Je n'ai pas les compétences pour trancher la question suivante. Malik Bentala est-il militant ? Interrogation devenu crucial par les temps qui courent. Cela dit, je suis sûre d'une chose, le garçon a des convictions et fait son boulot. Faire rire là où ça pique. En ce moment, Malik Bentala fait une tournée triomphale sur toutes les scènes de France avec Nouveau Monde, son troisième spectacle. Il m'a donné rendez-vous dans l'un des cafés-théâtres les plus célèbres de Paris. Ça s'appelle Le Point Virgule.
Totemic, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
Au fait, vous savez comment elle s'appelle, l'émission, ou pas ?
Moi, je dirais Becca sur France Inter.
Ça s'appelle Totemic, en fait.
Et pourquoi Totemic ?
Parce que j'aime bien le mot totem, et puis mic, ça fait micro, donc
d'accord,
voilà.
D'accord, Totemic, alors. C'est Totemic, Rebecca, alors si on... Vous avez fait qui récemment
Le directeur du Festival d'Avignon, qui s'appelle Thiago Rodriguez.
Je connais, il joue au Real, lui aussi. Je me projette toujours à travers le foot, donc... J'ai l'impression que tout le monde doit suivre le foot depuis que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Je parle que de ça. Donc,
je vois ça.
Ouais, non, je suis surexcité. J'ai attendu ce moment depuis toute ma vie. Et là, je me dis, on a un an à profiter. On est les champions d'Europe, quoi.
Bah, comme vous parlez de foot, on va écouter la voix que vous avez choisie.
Oui.
Enfin, vous n'avez pas choisi une voix, en fait. Vous avez choisi un événement.
Ouais.
La victoire de la France en juillet 98.
Exactement.
Donc, la première Coupe du Monde française.
Exactement.
Le 12 juillet.
98.
Et là, la voix que j'ai choisie, c'est celle d'un journaliste de Radio France.
Oui.
Qui s'appelle Jacques Vendroux.
Ah oui.
Donc, on est à la fin du match.
D'accord.
Où Dugarry passe le ballon.
À Petit.
Exactement.
Ok. Oui, à Petit, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
C'est Dugarry ou Vieira qui passe la balle à Petit ? J'ai un doute, on va voir.
30 secondes à jouer.
Je crois que c'est Dugarry.
Championne du monde de football, Dugarry qui part balle au pied, qui va donner à un de ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Il donne le ballon à destination d'Emmanuel Petit qui marque. Voilà, Emmanuel Petit qui marque. L'équipe de France qui est championne du monde, c'est officiel, c'est sûr, c'est certain. Il ne peut plus rien nous arriver. La France est championne du monde de football. La France a réussi son extraordinaire challenge.
Ben oui, non, mais c'est... ça raconte une époque, le fameux Black Blamber. On vivait dans une France qui était encore... je peux parler de ça, hein, on est sur une radio islamo-gauchiste, on est d'accord.
Ouais.
en fait, ça raconte une époque où on était un peu insouciant et grâce à cette soirée-là, les Arabes ont été à la mode. Et puis après, il y a un 2-3 soleil qui est arrivé, on a été encore plus à la mode. Et puis après, il y a Jamel Debbouze qui est arrivé. On a encore été plus à la mode qu'à la mode. Après, il y a eu le 11 septembre, la machine s'est enrayée. Mais cette période-là, la 98-2001, on est en apesanteur, j'ai l'impression. Il se passe quelque chose.
Vous avez quel âge à ce moment-là, vous ?
Je suis né en... J'ai 9 ans. J'ai quel âge ? Je suis dans quelle année, moi ?
89.
J'ai 10 ans, ouais. J'ai 10 ans.
9,
non,
ouais.
Mais non, j'ai 9 ans, pardon. Putain, mais oh là là, mon Dieu, les maths. Oh là là, la honte. 8 x 7, 56. J'ai 9 ans, je suis à la maison, à l'Audin, dans ma petite ville. Et je me revois à la fenêtre avec un espèce de sifflet. Et à chaque but de Zizou et de Petit, je siffle à la fenêtre et les voisins. Une espèce de communion. générale en France, quoi. Et puis après, on prend la voiture, on va klaxonner. Pour moi, c'est une date historique, quoi. On a transformé ça en événement historique. Il y a le 12 juillet 98, le 14 juillet 1789. Non, mais c'est dingue. C'est notre Madeleine de Proust, quoi. C'est vrai. Et encore une fois, ça raconte une époque où... le racisme n'était pas... On vivait pas avec un racisme un peu décomplexé comme on peut le connaître aujourd'hui, quoi. C'était un truc où... quand Jean-Marie Le Pen y passait au second tour, on sortait dans la rue. Je sens que ça se dégrade un petit peu. Après, voilà, je veux pas faire le vieux con, hein, du haut de mes 36 ans et dire « c'était mieux avant ». Non, j'essaie de rester optimiste et il y a encore des choses très positives aujourd'hui. Mais c'est vrai que politiquement, en tout cas aujourd'hui, c'est dur.
Et d'ailleurs, les humoristes se positionnent de moins en moins très clairement. En tout cas, il n'y en a pas énormément qui se positionnent politiquement clairement aujourd'hui.
Oui, parce que c'est risqué, parce qu'on vit dans une époque où aujourd'hui... nos propos peuvent être découpés, hachés, le titre du titre, le titre phare. On peut citer quelque chose ou parler de quelque chose et ça peut être, ça peut vite partir en effet boule de neige. On est dans le fast-food de l'information aujourd'hui, c'est-à-dire que une phrase doit être sortie de son contexte, elle doit buzzer, elle doit être reprise. C'était Denzel Washington qui disait ça, on ne doit pas dire la vérité. Aujourd'hui, on doit être le premier à sortir le scoop. Peu importe qui ça va blesser, peu importe qui ça va mettre dans l'embarras, il faut sortir le scoop. Peu importe que ce soit vrai, que ce soit faux. Donc voilà, c'est délicat de s'engager dans cette époque un peu particulière parce qu'on a peur pour la suite. Mais après, chacun, quand je dis on, c'est un on généralisé parce que moi, je n'ai pas l'impression d'être censuré ou quoi que ce soit. J'ai la chance de dire ce que je pense et après que ça plaise ou que ça ne se plaise pas, ou que ça ne plaise pas, pardon, je suis aligné avec. Avec l'homme que je suis, et voilà, je suis pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. Ça me parle, ça, quelqu'un l'avait dit, ça, non? C'est pas Mandela? Non, mais en tout cas, oui, je suis là pour dire ce que je ressens. Et...
Ça a pas toujours été le cas?
Ça a toujours été le cas, mais ce que je pensais il y a quelques années en arrière n'est pas forcément en adéquation avec l'homme que je deviens aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais insouciant, je voulais m'amuser, j'abordais des sujets plus légers, je me sentais pas prêt à aborder certaines choses, j'avais pas la carrure et le en tant qu'individu, les épaules peut-être pour aborder certains sujets. Et ça se fait progressivement. Et c'est sain d'ailleurs que ça se fasse comme ça. Mais heureusement que j'ai pu me construire avec des choses plus légères.
Là, on est au point virgule. Ouais. Sur une toute petite scène, sur la toute petite scène du point virgule.
C'est historique. Il y a tous les plus grands ont démarré là. Hein. Il y a moi. Il y a moi. Puis après, il y a qui le mec est vraiment gros. Non, moi, le premier souvenir que j'ai, vous ne m'avez pas demandé, mais je vous le dis, c'est la VHS de Eli Kaku. Eli Kaku qui avait fait son spectacle ici. Et là, vous voyez une petite lumière. Mais à l'époque, je crois que c'était ce qu'on appelait la poursuite. Maintenant, c'est... Elle y a encore la poursuite manuelle? Non, elle n'a jamais été. Ah si, elle est là. D'accord, ok. Et à l'époque, le poursuiteur d'Eli Kaku, c'était Gad Elmaleh, qui essayait de devenir comédien, qui était au cours Florent, qui essayait d'y arriver, qui avait trouvé ce job de s'occuper de la poursuite avec Eli Kaku. Et il racontait dans pas mal d'interviews que c'était son premier contact avec le show business. Donc... il était là, il épaulait un petit peu Eli Kaku dans son spectacle et après ils allaient dîner ensemble. Et c'est marrant parce que je me suis pas mal reconnu, moi, dans ce truc. J'ai commencé au point virgule et j'ai bossé au point virgule. Et j'étais tracteur, je tractais des flyers devant le point virgule tous les soirs de 17h à 21h. C'était la maison, donc en plus de jouer là et de m'essayer ici, je travaillais là.
Et quels sont vos souvenirs de scène ici?
Le premier, il est cataclysmique, hein. Le premier, il est catastrophique, même parce que c'est la première fois que je monte sur scène pour faire un casting. Et je me rappelle que ici, sur ces trois petits sièges que malheureusement les auditeurs ne voient pas, mais je vais les décrire, ce sont trois petits coussins. Et bien, au niveau de ces places-là, il y avait Jean-Marc Dumonté, qui est le propriétaire du Point Virgule, Antoinette, qui est la directrice artistique du Point Virgule, et il y avait Alex Lutz qui faisait passer les castings avec eux. Et donc je suis monté sur scène, ça s'est très très mal passé parce que j'avais pas bossé, j'avais pas préparé. Je pensais qu'avec l'humeur et l'énergie, ça allait le faire. Et au final, on m'a gentiment dit de rentrer chez moi jusqu'à ce qu'Alex Lutz me rattrape et me dise « Non, j'aimerais vraiment qu'on se revoie parce que je pense que tu as quelque chose. » Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais en tout cas, c'était ma dernière chance de pouvoir faire ce métier. C'est lui qui m'a un petit peu sauvé au dernier moment, quoi.
Mais Alex Lutz, il vous aurait appris quoi, alors? En dehors du fait de vous dire « Attends, redescends pas, c'est encore possible. »
Alex Lutz, il m'a apporté déjà un truc essentiel dans ce métier, c'est la légitimité. Parce qu'il m'a mis en scène sur le premier spectacle. Je me sentais un peu plus légitime parce que je travaillais avec quelqu'un qui était très respecté dans ce milieu et qui avait beaucoup d'expérience. Mais il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris à poser la voix. Il m'a appris aussi...
Pourquoi au départ, vous aviez une voix plus aiguë?
Non, parce que j'avais déjà un débit qui était... Vous savez, parfois, juste un rythme, un temps, un silence dans ce milieu-là, ça peut faire toute une différence sur une blague. Parfois, j'étais stressé, donc forcément stressé. Le stress, je le gérais de manière à parler très très vite. Bonsoir, je m'appelle Malik. Alors c'est vrai que j'avais envie que ça se termine. Je voulais rentrer chez moi. Donc il y avait un truc, il me disait, mais non, t'es en TGV là. Non, calme-toi, pose ta voix, mets des temps, joue, c'est un acteur. De toute façon, c'est un mec, ce mec-là, j'ai eu la chance de tomber sur un couteau suisse. Il a un Molière, il a un César, il fait du cheval, il est peintre, il est policier le week-end, pompier la semaine. Donc il fait un milliard de choses. Donc il m'a apporté des outils pour me débrouiller dans ce milieu-là. Il m'a donné pas mal d'anticorps aussi sur la manière de gérer ce milieu, à qui je devais faire confiance. Il m'a fait gagner beaucoup de temps et il m'a mis en scène sur l'écriture, sur le propos, de faire en sorte de toujours écrire en pensant au fond de ce que je fais. Donc je le remercie.
2010, le premier spectacle de Malik Bentala s'intitule « Malik Bentala se la raconte ». 2018, encore, c'est le titre du deuxième seul en scène. Dedans, il y a ce qu'on a fini par appeler le sketch du frigo, devenu d'autant plus célèbre que Kylian Mbappé en a repris la gestuelle, c'est-à-dire s'arrêter, ouvrir grand les bras et écarter les jambes. Mbappé a adopté ce geste de Malik Bentala pendant plusieurs matchs pour fêter un but. Je vous fais écouter un extrait de ce sketch que Malik Bentala a joué pour le Marrakech du Rire en 2018.
J'aurais dû m'en douter qu'on était une famille bizarre. Vous savez à quoi on voit qu'on est une famille bizarre? À nos frigos. T'as vu le frigo des gens normaux? Quand tu regardes leur frigo, déjà quand tu l'ouvres, il s'ouvre pas comme ton frigo. Eux, leur frigo, il s'ouvre comme les portes du paradis, comme ça. Tu rentres dans le monde de Narnia, frère. Moi, j'ouvre mon frigo, le premier truc sur lequel je tombe, c'est une tête de mouton coupée. T'ouvres le frigo, on dirait qu'il va te dire, tu veux une glace? Attends, c'est pas fini. À côté de la tête de mouton, il y a quoi? Une bouteille de coca avec de l'eau à l'intérieur? Avec l'étiquette du coca arraché? À côté de la bouteille de coca, il y a un demi-citron coupé tout sec. Il est là, au cas où il y a des moustiques dans le frigo. À côté du demi-citron, t'as quoi? Un tube d'Arissa plié en mille. Hein? Ta mère, elle veut pas acheter un nouveau. Même le tube, il a envie de dire, oh, ça y est, khlas! Il n'y a plus d'Arissa en moi. Oh, ça y est! La réelle est beau. Après, dans la portière, en haut, t'as quoi? À côté des œufs, t'as des gouttes pour les yeux. Et à côté des gouttes pour les yeux, t'as un vaccin que tu devais faire quand t'avais 4 ans.
Chic, Good Times, 3, 4, et on reprend.
y a 2 ans, Malik Bentala, humoriste, mettait en ligne une parodie de l'émission L'heure des pros de CNews, devenue L'heure de trop, présentée par Patrick Trot, T-R-A-U-D. Cette vidéo est donc en ligne sur YouTube. Dans cette parodie, 4 invités sont présents en plateau pour débattre du sujet suivant. La djellaba est-elle un vêtement religieux? Faut-il l'interdire dans l'espace public? En plateau, 4 personnes, donc, dont Larsène Arbouni, imam de Nancy, que Malik Bentala interprète, et grand donateur de l'association Un Couscous Tous pour Un, entre autres. Et à ses côtés, il y a aussi Abdelkader Ziani, simplement présenté par l'animateur comme l'arabe. Extrait de L'heure de trop.
Alors, Monsieur Arbouni, est-ce que pour vous, la djellaba est un vêtement religieux?
Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'elle se bagarre tous
ça
les jours contre l'abstentérantisme, l'abscurantiste religieuse. Non, c'est un moment, pour faire ça, notre pays, nous, Clovis de l'école. Sinon, il faut aller un djellaba derrière une voiture, un Twingo, et c'est ce monde à l'envers.
L'interdiction de la djellaba prouve une fois de plus que la France n'assume plus son principe de laïcité. On peut constater que le Conseil d'État, en son avis 832-456, datant du 27 novembre 1989, a décidé que la djellaba n'était absolument pas un vêtement religieux et qui était totalement compatible avec le principe de laïcité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État.
Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi.
C'est l'islam qu'on n'aime pas, ça.
Mais on le déteste.
Celui-là, il est pas.
Mais oui, c'est celui qu'on déteste.
Tout support confondu, cette heure de trop compte 100 millions de vues.
Et ça a été un succès qui m'a dépassé. Et encore une fois, je n'ai pas voulu faire ça pour faire un succès. Au contraire, je pensais même que ça allait être compliqué pour moi par la suite parce que je me suis dit, bon, ben, on ne m'attend pas là. Et puis, c'est clivant. Et puis, les gens, peut-être, n'ont pas l'habitude de... Vous savez, en France, quand on fait un genre d'humour, on aime bien... Le public n'aime pas trop être déboussolé. C'est-à-dire que faire un virage à 360, qui était mon cas, hein, passer de Pattaya à L'heure de trop, c'est un virage où on peut perdre un peu du monde en route. Et
Pattaya étant une comédie dans laquelle vous avez joué.
Exactement. C'est une de mes premières comédies avec laquelle j'ai démarré en 2016. Et c'est une comédie plus légère. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce sketch-là et j'en avais le besoin. Je vais donner un exemple. À une époque, on était un peu frustrés de ce qui se passait en politique ou peu importe. On rentrait, on allumait la télé, il y avait les guignols de l'info. C'était un exutoire. On était là, on disait « purée, c'est cool, on se sent pas abandonné, on n'est pas seul ». On a quand même les guignols de l'info qui arrivent à caricaturer les grands décideurs, les grands patrons, les politiques. Donc, avant même, on a eu des génies comme Coluche ou comme Desproges ou comme Bedos, Guy. Et je ne me compare absolument pas à ces génies-là, mais si à ma petite échelle, ce sketch a pu faire du bien à un moment, à une période, je suis le plus heureux du monde. Ouais.
Au-delà de son audience, qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce sketch ? Enfin, cette parodie.
Ça m'a conforté dans l'idée de m'écouter, de me faire confiance. Et
est-ce que vous avez eu la trouille ?
Ah, la veille, un petit peu quand même. La veille de la sortie de la vidéo, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, pourquoi je parle de ça ? Et au final, après, non, vu que mes convictions, elles étaient celles-là, je me suis dit, non, allez, on y va. Et j'y suis allé, je l'ai envoyé. Et au final, il y avait vraiment une majorité silencieuse et ça m'a vraiment surpris. Ça m'a surpris, réconforté et conforté aussi dans l'idée de continuer à faire ce genre de format, parodie, YouTube, qui est aujourd'hui une plateforme où on est vraiment libre. Vous savez, j'ai envoyé des parodies vidéo, il n'y avait absolument pas de format, quoi. J'ai envoyé du 13 minutes, du 2 minutes, du 45 secondes. Et puis, ça ne doit pas passer par 5-6 filtres qui sont, dans certains endroits, les producteurs, les coproducteurs, les distributeurs, les metteurs en scène. Et au final, quand chacun donne son avis, ça peut un peu dénaturer le propos initial.
Alors, juste pour rester quelques minutes sur cette parodie qui a vraiment eu énormément de succès, parce qu'avoir envie de faire du cinéma aujourd'hui, ça veut dire, par exemple, dépendre quand même assez régulièrement du financement de Canal+.
Bien sûr.
Sachant que Vincent Bolloré est propriétaire de Canal+ et de CNews. Or là, vous...
Pas que.
J'imagine que ça, vous y avez pensé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le cinéma français est financé par Canal+, dont Vincent Bolloré est le propriétaire.
Bien sûr. Bien sûr, après...
Donc ça veut dire aussi se fermer des portes du cinéma,
par
exemple.
Oui, totalement. Mais s'ouvrir des portes... En tout cas, moi, je me suis ouvert des portes que je ne pensais pas ouvrir à un moment. C'est-à-dire que je suis assez... C'est une des rares fois où j'ai été... Je suis dur avec moi, peut-être, mais j'ai été fier de moi. Peu importe si demain, j'ai moins d'opportunités. Peu importe si demain, j'ai moins d'argent. Et puis même, parler d'argent, je trouve... Aujourd'hui, on est des privilégiés. Je ne veux pas être démago, mais franchement, quand on voit l'état du pays, de la classe ouvrière, des agriculteurs, on voit l'état de ce qui se passe en France et même dans le monde, nous, on a la chance, et la chance d'être des privilégiés. Et là où j'en suis aujourd'hui, c'est le public qui m'a mis là. Donc, j'essaye d'allier mes principes avec ma carrière. Parfois, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas grave. Et en même temps, on vit à une époque dans laquelle il n'y a pas que Vincent Bolloré, hein. On n'a jamais eu autant le choix. Ici, on parle d'une période, t'es dans les années 80 ou 90, avec trois chaînes et demie et deux grands producteurs. Oui, forcément, là, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, j'encourage même ceux qui hésitent à parler, à prendre position, à s'engager. Si vraiment c'est le fond de leur pensée, faites-le. Parce que, regardez, moi, je suis le meilleur exemple parce que j'ai fait un film qui s'appelle Jack Me Moon, qui est sorti en 2022, dont je suis très fier. Dont on ne parle malheureusement pas beaucoup. Il est sorti au cinéma, ça a été un gros budget. Et en même temps, j'ai sorti une parodie sur YouTube, on en parle tous les jours. Donc il n'y a pas de règle pour le succès. On nous fait croire pendant des années qu'il faut être au cinéma si on veut cartonner. Non, aujourd'hui on a la chance de pouvoir... Les maîtres du monde, c'est les streamers aujourd'hui. En ordre de personnalité importante, on a quand même Donald Trump, Squeezie et Léna Situation. Donc ça raconte que ce sont des gens qui se sont construits... Je ne les compare pas, hein, mais je... Mais en tout cas, oui, pour en revenir à ces jeunes-là qui sont totalement indépendants et qui font leur truc, ils ne sont pas passés par le ciné, ils ont construit leur carrière, ils ont fait leurs choses. Le monde évolue et il faut essayer d'évoluer avec ce monde-là.
On a vécu suffisamment de belles choses. Plus d'aventures, ce serait la gourmandise. C'est un cauchemar, je vais me réveiller.
En 2022, Malik Bentala co-réalise Jack Me Moon et Le secret de Valverde avec Ludovic Colbeau-Justin. Une comédie réussie, mais qui n'a pas eu le succès espéré. Dès les premiers jours, les entrées n'étaient pas à la hauteur des attentes. Le film rend hommage et joue avec les codes de films d'aventure comme la série des Indiana Jones ou À la poursuite du diamant vert. Sauf qu'ici, Jack Me Moon est une star de la télé. Son manager l'accompagne dans la jungle et il tombe sur un mercenaire. L'affiche compte Jérôme Commandeur et François Damiens.
Moi aussi, il m'est arrivé des trucs. L'appendicite et j'ai douillé.
Vous n'étiez pas couvert par une mutuelle ?
Ça a été un échec parce que je découvrais l'espace-temps et le microcosme du monde de réalisateurs. J'ai co-réalisé ce film et ça a été en plus très difficile. Ça a été en plein Covid en Asie. Si on subit un échec commercial, contrairement à un sportif qui va faire un match de rugby ou un match de foot le samedi et qui se rate, ben il a une semaine pour pouvoir se rattraper, voire même parfois trois jours. Là, c'est un milieu où on met deux ans de notre vie pour l'écrire, le tourner, le réaliser, le sortir. Et si ça se passe mal, ben il faut tout reconstruire et ça prend deux ans, trois ans. Donc c'est deux ans de doute. L'économie du cinéma, elle est très violente. La décision, elle se fait le jour de la sortie. C'est-à-dire qu'en un claquement de doigts, on sait si ça marche ou si ça ne marche pas. Et donc, quelque chose qu'on construit pendant deux ans, ça me rappelle Nif Nouf, Nouf Nouf, là, les trois petits cochons. On souffle sur la maison, elle s'effondre en deux secondes, quoi. Donc, c'est assez violent.
Mais de cette déception, vous avez fait la matière d'un nouveau spectacle.
Bien sûr, et c'est... les parodies.
Comment c'est venu l'envie des parodies ? Parce que quand on dit parodie comme ça, ça fait dater.
Oui, oui.
Ça fait humour à l'ancienne.
Ouais, ouais. J'en ai parlé avec mon impresario. Non, c'est pas vrai, c'est pas... pour être aligné encore avec le lexique. Non, c'est venu parce que je sortais du film. J'étais passé justement dans cette machine à laver, comme je vous l'ai dit, là où j'étais lessivé, j'étais fatigué. Je me suis dit, maintenant, j'ai juste envie de faire un truc de bah ouais, j'aime les inconnus. J'ai envie de me foutre de la perruque sur le crâne. Du maquillage, me marrer, déconner, revenir à quelque chose de simple. Parce que je sortais d'un gros Barnum qui était quand même un film en Asie, à plusieurs millions d'euros de budget, et c'était assez énorme. Et là, j'avais besoin de me recentrer sur quelque chose de plus fluide, de plus simple.
Parmi toutes les parodies, il y en a des très célèbres. Il y a L'heure de trop, il y a Jacques Mousse qui parodie donc l'univers de la mode. Mmh. Et puis, il y a la parodie d'une interview à l'occasion de la sortie d'un film. L'interview par Laurent Veil, d'une cinéaste, comédienne et de son acteur, qui s'appelle Farouk.
Farouk,
c'est vous qui jouez. Ouais. Et donc, il joue dans Le figuier de la rédemption.
Oui, c'est ça.
Coucou les graines du figuier sauvage.
Ah non, il est sorti bien avant. On a été précurseurs.
C'est pas vrai.
Bah bien sûr, nous on est sortis en 2023. Ben oui.
Oui.
C'est pour ça que quand j'ai vu le film, j'ai dit mais c'est dingue, comme quoi c'est fou.
Ce qui revient, je trouve, dans les parodies, et notamment dans celle du figuier de la rédemption, c'est de pointer une espèce de bonne conscience assez gluante et donc de condescendance.
De condescendance, oui. Vous savez, ces gens-là sont fantastiques.
Le petit
peuple est fantastique. Farouk est incroyable. Ce matin, il venait en mobylette encore au tournage.
Cette parodie d'interview d'une cinéaste et de son comédien s'intitule « Rencontre du 7e art ». Le titre s'affiche avec la typo de Canal+, et sur cette musique, le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, qui ouvre toutes les projections du film pendant le Festival de Cannes. Et donc à l'écran, sur le traditionnel fond noir, chic et sobre, le journaliste de cinéma Laurent Veil interviewe Christelle Schott-Mitchell, cinéaste qui a réalisé Le figuier de la rédemption, avec un comédien qu'on désigne simplement par son prénom, Farouk. Et Christelle fut tout de suite émerveillée par Farouk, parce que le jour où elle lui a amené sa bagnole en panne, il lui a dit « c'est loin de culasse ».
Ces gens-là, comprenez, ont une poésie, une candeur en eux qui, moi, me touche. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est carrossier et boueur ou en prison que le 7e art ne peut pas frapper à votre porte.
Vous avez été sensible à ça, justement, cette possibilité de faire du cinéma, peut-être?
Moi, je ne sais pas, en vrai. Parce qu'en vrai, de vrai, après, moi, je n'avais pas grand-chose. J'étais en CDD à feu vert.
Bien
sûr. Du rap, j'ai un album. J'avais sorti mon album, je te l'avais donné.
Oui.
Voilà. Après, voilà, normal, il y a d'autres trucs à côté, mais je peux pas trop, je sais pas si j'ai le droit d'en parler ici ou quoi, mais j'ai d'autres trucs, d'autres business à côté.
Mais peut-être pas.
Des affaires.
Et vous, Christelle?
Moi, juste le cinéma.
Elle arrête pas, elle. Hein. Sa mère aussi, elle faisait ça aussi, elle m'a dit. Sa mère, sa grand-mère, ils faisaient
le
tout ça.
Le cinéma m'habite.
Le cinéma m'habite, elle a dit. J'aime bien, elle a un côté un peu... un peu, tu vois.
Ouais.
Pour le coup, je l'ai fait instinctivement, naturellement. Je me suis dit, qu'est-ce qui me turlupine, qu'est-ce qui me saoule un petit peu même, quand j'allume la télé, quand je lis les journaux. Et là, j'avais l'impression qu'on était un peu, on est dans une dystopie totale. On est dans le Truman Show, on est dans l'idiocratie, un espèce de truc. Où... Et je veux dire la vérité, j'aurais aimé même moi être parodié, parce qu'être parodié, c'est quand même c'est l'aboutissement de quelque chose. Ça veut dire qu'on fait partie de la culture populaire, on fait partie de la culture pop et on a du succès. Et à l'époque... Les gens qui avaient leur marionnette au guignol, c'était un aboutissement presque, c'était flatteur. Tout le métier regarde les 50 personnalités préférées des Français. Vous croyez que les gens du milieu ne regardent pas? Est-ce que j'y suis? Est-ce que j'y suis pas? Combien? Oh là là, j'ai perdu de... Mais tout le monde, après, en interview, ment. Non, moi, vous savez, je ne fais pas ça. Mais tout le monde a de l'ego. Maintenant, le plus important, c'est est-ce que l'ego, on le met au service de nos projets ou est-ce qu'on met le projet au service de notre ego? Je me suis dit, non, mais là, il y a un terreau qui est plus que fertile et il faut en jouer, quoi. Y a plein de trucs qui se passent, c'est un boulevard.
Et voici Les Feux, Chatterton, avec Labyrinthe.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisin de Corinthe et pêche rubis, marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe, sans chercher d'issue. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines. reste un peu ici, la porte joliment peinte. On tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait bien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait bien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Peut-être on peut s'asseoir.
Oui, plaisir. Avec volontiers. Totémique. On se met tout en bas ou en haut?
On va se mettre là.
Ouais, ouais, ok.
Hop.
Sur la scène du théâtre Le Point Virgule à Paris, avec l'humoriste Malik Bentala, c'est l'échappée de Totémique jusqu'à 10h. Le dernier spectacle de Malik Bentala s'intitule « Nouveau monde » et pas « Monde nouveau ». Il remplit les salles de France avec depuis plus d'un an. Et depuis ses débuts, en 2010, Malik Bentala est l'auteur de 1, 2, 3 seuls en scène, dont la formule a évolué. Interpeller le public selon les codes du stand-up, oui, mais pas que.
En fait, si je dois reprendre, le premier, c'était assez simple parce que c'était une présentation. Donc ça, c'est assez fluide en termes d'écriture. C'est qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux, quel a été ton vécu. Et il n'est pas énorme, tu as 18 ans, donc ça tourne vite autour de l'école. Donc c'est un spectacle un peu plus frais, plus jeune. Le deuxième, je l'ai écrit en me disant, il faut que tu racontes ce que tu viens de vivre. C'est un petit gars de province qui a eu la chance de jouer dans Taxi, qui a fait Rendez-vous en terre inconnue, qui tu passes de l'Audin à des millions d'entrées au box-office et à une popularité assez cool en France. Donc... emmène le public par la main avec toi dans les coulisses de ce que tu es en train de vivre. Et ça a été un peu les backstage de ce milieu-là et, entre guillemets, le succès, comment ça se passe, comment je le vis. Et le troisième, il est beaucoup plus intime parce que je parle des échecs, je parle de la santé mentale, je parle de la dépression, de sujets plus lourds à travers l'humour. C'est là où je me sens à ma place et je me sens un peu adulte. Je ne vais pas faire un spectacle parce que c'est le moment, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Vous savez, j'avais un rendez-vous avec un des dirigeants de YouTube il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mais on n'a pas compris quand tu as fait tes vidéos YouTube qui ont cartonné, qui ont été virales sur YouTube. On pensait que tu allais enchaîner et que tu allais... Tout le monde essaye de créer une communauté, tout le monde essaye d'avoir un public, surtout sur Internet, c'est assez volatile. Et il me dit, tu as disparu derrière. Et moi, j'adore ça. Je fais toujours en sorte de me laisser le temps de vivre des choses, de me mettre en jachère un petit peu, prendre un peu le temps de se taire. C'était Brel qui disait ça, prendre le temps de me taire.
Vous venez du stand-up.
Ouais.
Il y a eu Alex Lutz et puis après vous avez rencontré Jamel Debbouze.
C'est ça.
Qui a vraiment changé le paysage de la scène française en créant le Jamel Comedy Club où on a vu de nouveaux visages, une nouvelle génération. Et là, c'est une forme quand même qui est différente du stand-up stricto sensu. Il y a beaucoup d'improvisation, vous interpellez la salle, mais il n'y a pas que ça.
Non, il n'y a pas que ça parce que je suis allé puiser dans toutes mes inspirations qui vont de... Comme je vous l'ai dit, ça va de Eric et Ramzy, Jamel, Gad. Mon père était un amoureux de Pierre Desproges, Les Inconnus, je suis fan. Donc, incarner des personnages aussi, c'est important pour moi sur scène. Et dès que je peux les incarner, je le fais. Donc, il n'y a pas de perruque, il n'y a pas de déguisement, il n'y a pas de noir sale. C'est un format, on va dire, continu. C'est un petit format hybride entre l'incarnation des personnages, mais sans artifice. Vraiment, quand j'écris, moi, de mon premier à mon troisième spectacle, il n'y a pas de... C'est toujours la même structure, la même manière de faire. C'est-à-dire que je prends des notes dès que ça me traverse l'esprit. Ça peut vraiment passer du coq à l'âne. Hein. Vous regardez mes notes, je peux parler de ma famille, comme je peux parler de sport, comme je peux parler de nourriture, de peu importe. Quand on commence à avoir des dizaines de pages de notes, on se retrouve avec mon co-auteur et on essaie de trier ces notes-là par thème. Une fois qu'on les a par thème, on essaie de fluidifier la chose et de faire en sorte de créer du lien entre tout ça. Et une fois qu'on a un dossier qui fait à peu près 40 pages ou 30 pages, ben on prend notre petite besace et on va un peu partout en France dans des salles un peu comme ici, au point virgule, des salles de 100 places. Et on fait ce qu'on appelle du rodage. Et c'est un public qui est averti, qui sait que c'est un spectacle qui est en cours d'écriture, qui est en cours d'élaboration, et c'est un public qui aime ça. C'est un public qui aime être dans le laboratoire. Donc,
un public qui accepte d'être test.
Exactement, et qui le demande parce qu'il y a un côté vraiment plus intime, plus proche. On est vraiment dans des toutes petites salles et on échange avec le public, on discute. Et souvent même, ça m'est arrivé de voir certaines personnes qui étaient venues voir le spectacle devant 100 personnes, qui reviennent dans des zéniths pour voir l'évolution, pour voir qu'est-ce qui a changé dans l'écriture, dans le jeu, dans l'interprétation. Donc ouais, j'écris comme ça, mais j'écris pas en me disant il faut que je m'éloigne du stand-up. Non, je pense que c'est moi en tant qu'individu ou en tant qu'homme, en grandissant, qui vais vers d'autres chemins, dans le jeu, dans l'interprétation. Ouais. Et puis mon spectacle de chevet, quand j'ai démarré, c'était Décalage de Gad. Le premier spectacle de Gad, mis en scène par Isabelle Nanty, entre stand-up, incarnation, personnage, c'était fou. Peut-être qu'on reviendra à cette mode. On a eu la mode du stand-up, mais peut-être qu'on va revenir à la mode des personnages. Je crois qu'on y vient petit à petit, d'ailleurs.
Allô ?
La voix de fou.
Allô ? Allô, Raski ? Allô, Raski ? Oui.
Pour vous donner une idée des moments d'impro sur scène de Malik Bentala, voici un extrait d'une date de tournée à Montélimar. Une spectatrice regardait son portable pendant le show, Malik Bentala le lui confisque et appelle l'un des contacts du téléphone. Le hasard fait qu'il tombe sur un certain Raski. Raski décroche et il engage la conversation.
Allô, tu m'entends ?
Oui.
Je suis avec Fatima.
Oui.
Oui, elle a perdu son portable.
Ben, je viens chercher.
Oui. Oui, s'il vous plaît, oui. Il est là, à la salle de spectacle.
À l'entrée du spectacle ?
Oui, à l'entrée du spectacle, vous dire je viens chercher le portable de Fatima.
D'accord.
D'accord, à tout de suite.
D'accord, à tout de suite.
À tout de suite.
Ça me fait de la peine parce qu'on a tous imaginé dans ses pantoufles en train de regarder Canal Algérie. Je sais pas qui c'est pour toi, mais ça se voit que c'est un gentil. Si je l'avais dit, je suis au Portugal, je viens à pied, j'arrive tout à l'heure. Mais ça te ferait plaisir qu'ils viennent ? Non, ça te ferait pas plaisir ? Ah ben là, il est déjà dans la Laguna, là, je pense. Hein, elle est...
Et Raski finira par arriver. Un jeune homme fait donc son entrée sur scène, mais il ne s'appelle pas Raski, il s'appelle Mohamed. Malik Bentala dit « c'est pas le bon gars », il part en coulisses et revient pour expliquer que Raski refuse de se montrer parce qu'il est en jogging claquette. Il avait donc envoyé son fils.
Bon, je vais essayer de me la péter un petit peu, mais c'est juste de l'expérience. J'étais incapable de faire dans le premier spectacle ce que je fais aujourd'hui dans le troisième. C'est une manière d'appréhender le public, d'appréhender l'échec, d'appréhender le silence. Tout ça, ça s'acquiert avec le temps. Et aujourd'hui, j'ai plus peur du flop. Je me dis, bon, si ça marche pas... Et en fait, le public, il faut vraiment tout leur dire, quoi. Si ça marche pas, il faut leur dire, bon, ben là, ça a pas marché, hein, tout simplement. Donc on va... Alors qu'à l'époque, j'essayais de cacher un flop. J'essayais de masquer... je courais après le rire. Et forcément, c'est une fuite en avant. Je transpire, je suis pas bien, je panique, je m'enfonce, je vois que ça marche pas, donc j'essaie de me raccrocher aux branches. Et là, les gens sont mal à l'aise. Ils disent, oh là là, mais on assiste à un naufrage, là. Alors que si jamais on fait une vanne et qu'elle se passe pas très bien et qu'on désamorce tout de suite en disant, bon, ben là, vous venez d'assister à ce qu'on appelle de la merde. Il y a une espèce de sincérité avec le public qui fait qu'ils sont tout de suite avec nous.
J'aimerais qu'on écoute le tube que vous avez choisi.
D'accord. Avec plaisir, pardon, excusez-moi, c'est ma maman. C'est bon. Ah oui, quel morceau incroyable.
Pour Totemic, Malik Bentala a choisi Lose Yourself d'Eminem.
Et là, la guitare va rentrer. Accrochez-vous.
Look. If you had one shot or one opportunity, this is everything you ever had. One moment. No, one moment. One moment. Did you capture? Just let it slip.
Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms.
arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up.
Bah, 8 Mile, la BO d'8 Mile, le morceau
le film d'Eminem.
Le film d'Eminem, le morceau s'appelle Lose Yourself, qui est pour moi le limite le nouveau, on va dire ouais, le nouvel Eye of the Tiger presque, plus moderne. Et ce morceau veut tout dire, il donne envie de mettre une paire de running et de partir courir, de faire du sport, de se dépasser. Même moi, Eminem, j'ai grandi avec lui. Ça a été vraiment une source d'inspiration incroyable.
Dans quelle mesure, sous inspiration ?
Parce que c'est un rappeur qui n'avait rien pour réussir. C'est un rappeur blanc dans un milieu noir américain. Il en parle souvent, d'ailleurs. Il a été découvert par Dr. Dre, qui l'a mis en avant. Et au final, il venait d'une ville qui n'était pas forcément sur la carte des États-Unis en termes de rap, qui est Détroit. À l'époque, les rappeurs venaient soit de New York, soit de Los Angeles. Donc franchement, là, on a un gars qui a rien pour lui. Il vivait dans une caravane avec sa mère. Avec
ce que raconte le film.
Ce que raconte le film, avec laquelle il ne s'entendait pas. Donc c'est vraiment un modèle de résilience incroyable.
Donc il vous a inspiré parce que c'est le gars qui vient de nulle part et qui y arrive, en
ouais,
fait.
Oui, c'est ça, totalement. Qui y arrive et qui arrive.
Vous vous êtes identifié à ça?
Je pense qu'il y a un côté, oui, il y a un côté, oui, bien sûr, je me suis identifié à ça. Et je me suis identifié aussi beaucoup, ce qui m'a plu avec Eminem, c'est l'humour. Où on était en plein gangster rap, ils appelaient ça le gangster rap. C'était
quel accent.
Je viens du Michigan aussi. Hein. Donc lui, Eminem arrive avec de la vanne, quoi. Il se déguise dans son premier clip, il change de voix, il se moque de Britney Spears, de Christina Aguilera, il est controversé, il en a rien à foutre. Il y a un côté où, ok, je m'en fous que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et au final, il a cassé le plafond de verre et pas qu'un peu. Hein.
Vous avez prononcé un mot qui est hyper à la mode, ça m'étonne presque de vous.
Lequel ?
Résilience.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un mot qui est à la mode, ouais. Je suis d'accord.
Comme si, voilà, il fallait toujours s'en sortir.
Oui. Mais bon, après, c'est important. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un, un artiste que j'admire et qui parle de sujets comme la santé mentale ou le harcèlement, peut-être que je me serais un petit peu plus familiarisé avec ces problématiques-là. Mais aujourd'hui, beaucoup d'artistes parlent ce livre et je trouve ça bien. Après, bien évidemment...
Mais la dépression, c'est même un sujet. C'est un sujet dans le rap aussi.
Oui.
C'est un sujet de spectacle.
C'est un sujet de société. C'est un sujet pour tous les mammifères. C'est un sujet vraiment... c'est très important d'en parler, de pouvoir faire en sorte que les gens prennent conscience que il y a des choses qui ne se voient pas forcément, mais qui... La santé mentale, la maladie s'infiltre en nous et on s'en rend même plus compte. On se laisse couler, on se détruit, on s'auto-détruit. Et si on n'a pas le courage et la force et le rebond pour aller parler à quelqu'un, ça peut très très mal se terminer. Donc c'est important pour nous, en tout cas, lorsqu'on est médiatisé, de se sentir utile à un endroit.
Orange, nouveau morceau de Gorillaz.
totémique. Totémique ou totémique. Totémique, on va dire. Bonjour les amis, c'est Malik Bentala et Rebecca. Nous sommes actuellement au point virgule pour l'émission Totémique. Non, Totémique, évidemment sur France Inter.
La carte blanche que vous avez choisie, c'est un texte d'Oxmo Puccino, rappeur aussi.
Ouais.
Vous le connaissez par cœur ou pas ce texte ?
Non, je ne le connais pas par cœur malheureusement. Il est tellement bien écrit et il est tellement parfait que je ne le connais pas par cœur. J'aimerais le lire et c'est un artiste que j'admire énormément, qui est brillantissime parce que ses textes sont puissants, l'incarnation, tout ça, c'est... Pour moi, il fait partie des plus grands rappeurs de l'histoire en France. Ouais. C'est un poète, c'est au-delà du rap même, Oxmo Puccino, c'est un poète, même aujourd'hui, la manière dont il se réinvente.
Vous lisez le texte ?
Allez, je lis le texte. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un moment de ce texte que je trouve extraordinaire. Alors, où est ce magnifique texte ? Je vous le lis. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur renvoie un triste reflet. Mais est-ce ma faute ? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend. Peu le savent. Que je le sache, ça te surprend. Il mate par la vitre. La solitude qu'il mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils. Ils n'en discutent pas, confondent la rime et l'acte. La fuite et le suicide, un pacte, une promo sans tract. Pas trop de mots, nobody n'a capté le sale souhait, l'envie de se laisser par le cou pendu. Pour punir les parents qui, pour aimer l'enfant, ont trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant né, c'est le départ en tête. L'embêtement, comme passe-temps, en fait des parents bêtes. Et là, accrochez-vous, c'est pas dans le texte, mais je vous dis cette phrase qui est extraordinaire. Il termine le couplet en disant « Mes crises lancinantes, sentiments en ciment, sinon dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. » Je répète. « Mes crises lancinantes, sentiments en ciment, sinon, dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. » C'est fort, c'est un message. Je parlais de harcèlement tout à l'heure, harcèlement scolaire. Le morceau s'appelle « L'enfant seul » d'Oxmo Puccino.
T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Bienvenue des bois fonds, des quartiers neufs. Bref, on font tous la même souffrance.
C'est un message pour tous les gens qui se sentent seuls, pour les enfants qu'on a parfois moqués à l'école ou qui se sont sentis abandonnés par leur propre famille. Donc... C'est même un cri d'espoir de la part d'Oxmo d'avoir le courage. Il était même avant-gardiste. Parler de ces sujets-là à l'époque, dans les années 90, dans le rap, c'était peu courant. Et l'enfant seul, voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et je voulais lire ce texte parce qu'il est toujours d'actualité, malheureusement.
La dernière séquence, c'est une photo.
Ouais.
D'habitude, je la fais avec un Polaroid, mais il est à nouveau en panne pour la...
Oh, bah, c'est pas grave, on refera une autre émission. Hein. C'est pas un souci, ça.
Mais donc, je peux faire une photo ?
Oui, bien sûr. Vous voulez quoi ? Plus pensif, plus...
Ah ouais, je peux dire pensif ou quoi ? C'est quoi vos registres ?
Exigu.
Exigu ?
Ouais.
D'accord.
Alors, j'ai jamais regardé ailleurs, moi. Poser le regard ailleurs, ça nous occupe un petit peu, ça fait photo volée. Il y a un côté un peu plus... Oh, mais arrêtez.
Alors, je préfère qu'on se lève pour aller devant le...
Bien sûr, devant le logo.
Ouais, devant le logo du point virgule. Alors, exigu. Pensif. Malik Bentala. On regarde ?
Allez, on regarde. J'aime bien celle-là.
Celle-là, c'est exigu. Hein.
C'est exigu, ouais. Je suis l'artiste le plus exigu de France, donc ça... Un peu de couleur, j'ai une veste rose aujourd'hui. Voilà.
Merci Malik Bentala.
Merci Rebecca. C'était cool. C'était fluide.
Nouveau monde, spectacle de Malik Bentala est en tournée dans toute la France, à Saint-Dizier demain, à Roubaix le 5 février, au Casino de Paris du 28 au 29 mai. Des dates sont annoncées jusqu'au 15 novembre. Stéphane Le Guenec réalise Totémique avec Noé Chaban et Mathias Alléon. Aujourd'hui, Perrine Malinge coprogramme nos invités, Ilinka Negulesco trouve les sons et la documentation et JB Audibert choisit les disques de la bande originale de l'émission. La semaine prochaine, rendez-vous dans un conservatoire musical avec l'écrivaine Agnès de Sarthe.